Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de l'été. Je suis Maria Hanel, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « Le bonheur au bout des doigts ». Le bonheur est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelque temps. On pourrait presque dire que c'est un sujet à la mode. Pourquoi en parle-t-on tellement? Les gens ne sont-ils pas heureux? Nous constatons que même si notre vie actuelle comporte une multitude d'avantages et de facilités, il n'y a jamais eu autant de personnes en dépression ou en burn-out, autant de mal-être, et parfois chez des très jeunes, et de prescriptions de relaxants, antidépresseurs et autres. Alors, pourquoi parler du bonheur? Et surtout, comment faire? Que mettre en place pour être plus heureux? C'est ce que notre conférencière ce soir, experte en gestion du stress et de la douleur, et créatrice de bonheur, va nous présenter. Elle est également formatrice en EFT et en fleurs de Bac. Elle a créé le Bac Energy Tapping, qui est le mélange puissant de l'EFT et la force subtile des fleurs de Bac. Elle est également la co-créatrice du programme Fate, qui est un programme de coaching et de développement personnel extraordinaire. Caroline va nous expliquer ce soir comment accéder à un niveau de bonheur supérieur, quels peuvent être les freins à plus de bonheur et comment l'EFT peut vous amener à un niveau supérieur de bonheur dans votre vie. J'ai le plaisir de vous présenter, depuis la Belgique, Caroline Bachaud. Bienvenue Caroline.
Bonjour Maria, bonjour à tous.
Le bonheur au bout des doigts. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ah, ce que je veux dire par là, c'est qu'en entreprenant un travail personnel avec les thérapies énergétiques, l'EFT étant mon chouchou bien sûr, nous pouvons être plus heureux. Cela peut se faire par une thérapie en individuel ou par un travail de groupe via un programme de coaching ou de développement personnel. L'important, c'est de commencer quelque part. Et je rencontre beaucoup de gens lors d'événements et sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de personnes malheureusement se plaindre de leur mal-être, de leur famille, de leur maladie et malheureusement, ils ne font rien pour que ça change. Se plaindre n'a jamais fait changer les choses. Et rester focalisé sur ce qui ne va pas ne fait qu'entretenir cela et en créer plus encore. Et comme je le dis souvent, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Ça veut dire qu'il va falloir changer d'approche, changer d'environnement, changer peut-être de boulot ou de conjoint. Mais avant de changer votre environnement extérieur, il est vraiment primordial de se changer soi, changer de l'intérieur. Et ça demande du courage d'entreprendre un chemin vers soi, vers ses blessures, ses traumas. Il faut trouver la bonne personne et la bonne technique. Et pour cela, l'EFT est génial. Alors, évidemment, quand je dis que les personnes qui se plaignent ne font rien pour aller mieux, je vais quand même tempérer mes propos. Certains font des choses, mais ça reste souvent en surface. On travaille ce qui se voit, le symptôme, et pas la cause. Et la cause de la maladie est rarement la source de la maladie. Avec l'EFT, on peut travailler à la source, à l'endroit même où a eu lieu cette fameuse perturbation énergétique dont parle Gary Craig. Le fameux qui va perturber notre système énergétique, nos méridiens, l'acupuncture, et qui va engendrer un problème dans notre vie, un problème émotionnel, un problème physique, ou un problème relationnel ou autre. Par exemple, je travaille beaucoup avec des personnes qui souffrent de douleurs et de fatigue chronique. Et souvent, ces personnes se soignent avec des antidouleurs et des antidépresseurs parce que, ben voilà, ils n'ont rien trouvé de mieux. Ou font de la kiné, ou parfois ils entreprennent une psychothérapie, ou vont se faire masser, des choses comme ça. Et tout ça, ça les soulage, bien sûr, mais ça ne va pas à la source du problème. Alors, c'est quoi la source du problème, ce fameux dont parle Gary? Eh bien, lorsque nous vivons une expérience, un événement, celui-ci est a priori neutre. Ce n'est que la charge émotionnel que nous allons mettre dessus qui va faire que ce sera un événement agréable ou désagréable. Par exemple, Maria, on va se casser le pied toutes les deux, bah pour toi, ça sera juste embêtant. Mais tout compte fait, ça te permettra de passer quelques jours tranquilles à la maison. Mais pour moi, ça va être une catastrophe et je vais peut-être même en faire une déprime. Pourtant, c'est le même événement, c'est juste un pied cassé.
Oui.
Alors, pourquoi un même événement peut avoir des effets différents? Eh bien, nous avons tous un système énergétique différent. Et la perturbation dans notre système énergétique ne sera pas la même chez toi que chez moi, et donc, les conséquences seront différentes. Donc, pour être un peu plus clair, je vais peut-être faire une parenthèse, parce que là, tous les auditeurs ne connaissent peut-être pas très bien l'EFT. Il y en a peut-être qui découvrent l'EFT grâce au congrès, ça c'est super. Donc en fait, comme notre sang est véhiculé via nos veines et nos artères, notre énergie est véhiculée via nos méridiens d'acupuncture. Ce sont comme des autoroutes énergétiques, des canaux pour distribuer l'énergie nécessaire à la vie dans tout notre corps. Tant que l'énergie circule harmonieusement, tout est santé, abondance, bonheur et paix dans notre vie. Et puis, il y a un événement, une expérience qui se passe. Et cet événement, cette pensée, va créer une perturbation dans notre système énergétique. Et c'est cette perturbation qui va engendrer une émotion négative, qui à son tour va créer une croyance négative, qui va amener un comportement négatif et qui va amener pour finir un problème de santé, une maladie physique ou émotionnelle, un mal-être, une dépression, un burn-out. La maladie étant pour moi la manifestation ultime de cette perturbation énergétique.
Oui, on n'est pas toujours obligé d'en arriver là.
Non, heureusement.
Et si on ne fait rien pendant que ce processus se déroule, effectivement, ça peut en finir comme ça.
Exactement. Et donc, que font les thérapies classiques, je vais dire, ou la médecine moderne? Ben, elles vont travailler sur la maladie, sur le symptôme, ou certaines thérapies qui vont un petit peu plus loin vont travailler sur des croyances au niveau du mental, où on va apprendre à gérer nos émotions. Et tout ça est très bien, hein, et ça peut vraiment, vraiment aider les gens. Mais souvent, ça reste en surface. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter votre traitement ou votre thérapie, certainement pas. Les thérapies énergétiques ne sont pas là pour remplacer quoi que ce soit, comme tu l'as très bien signalé, et un traitement médical est souvent nécessaire pour soulager la personne. Ce que je dis, c'est que tant qu'on n'a pas été travaillé en profondeur, à la source, donc la perturbation énergétique liée à un événement particulier ou à plusieurs événements, le problème ne sera pas entièrement résolu et risque de se reproduire de la même manière ou différemment. C'est d'ailleurs souvent ce que j'entends en consultation ou en séminaire, des gens qui disent « Oui, mais ça, j'ai déjà travaillé en thérapie. » Alors, je leur réponds avec un grand sourire « Ah oui, mais pas avec l'EFT. » Et donc, ou qu'ils l'ont peut-être déjà travaillé avec l'EFT, mais ils n'ont pas travaillé tous les aspects à ce moment-là pour plein de raisons, parce que ça n'a peut-être pas émergé à ce moment-là. Et puis, quelque chose a réveillé cet aspect non traité et le problème peut ressurgir. Donc même si l'EFT est un outil très puissant et très rapide pour traiter un problème, il faut parfois du temps pour traiter tous les aspects d'un problème. Et c'est surtout en posant les bonnes questions que le praticien expérimenté va pouvoir aller trouver, comme je dis, le petit fil, le petit bout qui dépasse de la pelote de laine et faire un travail alors d'investigation pour aller trouver l'événement originel qui a fait que cette personne vit tel ou tel problème dans sa vie. Et c'est ça pour moi, l'art de pratiquer l'EFT dont parle Gary Craig, c'est vraiment aller au cœur des choses rapidement et trouver directement le cœur du problème. Donc, et c'est le plus difficile car souvent les gens n'ont même pas conscience eux-mêmes de cette origine. Hein. Donc, mais une fois qu'on y arrive, les séances sont magiques. C'est vraiment comme des moments suspendus dans le temps et il se passe quelque chose de puissant et subtil à la fois. Enfin, moi j'adore ça. Mais c'est également important d'assurer un suivi avec les personnes, surtout si si certains praticiens ont comme moi par exemple une double casquette de thérapeute et de coach, et souvent quand on va à une formation, un séminaire, un atelier, on sort tout motivé de là, et puis malheureusement la motivation redescend vite et on met pas en place les choses qu'on a apprises. Ben, parce que justement, ben, souvent on reste en surface, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et il n'y a pas de suivi.
Oui.
L'être humain est un petit peu, ben, c'est pas négatif ce que je dis, c'est que par nature l'être humain est un peu fainéant, hein, surtout maintenant.
Disons que nous recherchons la facilité.
Voilà, mais surtout qu'aujourd'hui tout est plus facile, tout est prémâché, on veut que tout soit acquis rapidement, mais parfois il faut prendre du temps pour changer les choses dans tous les domaines de la vie et surtout pour que ces changements perdurent. Donc voilà, et dans les suivis que je fais, ben, j'utilise d'autres outils que l'EFT, le coaching, la sophrologie, les fleurs de Bach, le Bach Energy Tapping, hein, dont on a parlé l'année dernière, le DP4, la loi d'attraction que j'adore, mais c'est vraiment, vraiment l'EFT que je préfère et comme dit Carole Luke, qui dans mes mains donne le meilleur résultat.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que on s'approprie l'EFT. Contrairement à beaucoup d'autres techniques, on peut s'en servir soi-même entre les séances avec un praticien, éventuellement. Et ça, ça donne quand même une énorme autonomie et une énorme puissance. On est là pour redonner la puissance, redonner le pouvoir aux personnes qui travaillent avec nous.
Exact.
Alors, pourquoi justement l'EFT est l'outil central de cet accompagnement que tu proposes?
Ben parce que justement, pour moi, dans mes mains, hein, de nouveau, c'est l'outil le plus efficace pour transformer les croyances, les freins, les limites, les conflits intérieurs qui nous empêchent vraiment d'être heureux et de vivre la vie dont nous rêvons. On parle beaucoup hein, de pensée positive, il faut être positif, penser positivement, être optimiste. Et si on voit les choses positivement, on attirera plus de choses positives. C'est ce que dit d'ailleurs la loi d'attraction. Et j'adore la loi d'attraction. C'est formidable quand on sait comment ça marche et qu'on l'utilise consciemment pour créer la vie de ses rêves. Et j'adore donner des séminaires sur la loi d'attraction et voir les changements extraordinaires dans la vie des gens. Mais la première chose que je dis dans ce séminaire, c'est que la pensée positive, ça ne marche pas. Et souvent, ça choque quand je dis ça parce que on nous bombarde d'infos à ce sujet, mais je le dis exprès pour aussi créer une réaction chez les gens et attirer leur attention. Se focaliser sur le positif, sur ce qu'on veut, ne suffit pas pour transformer notre vie.
C'est ça.
Parce que si au fond de nous, on a des croyances, et on en a tous, hein, moi aussi, des peurs qui nous bloquent, des blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, ça ne marchera pas ou ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et grâce à l'EFT, on arrive, entre guillemets, facilement à se défaire de ses croyances, ses peurs et ses blessures. Et je dis facilement entre guillemets parce que, en effet, si la technique de l'EFT est extrêmement simple à appliquer par soi-même, hein, il suffit de tapoter en effet quelques points en étant focalisé sur notre problème, sur ce qui nous dérange, travailler sur les croyances, les peurs et les blessures est un travail, pour moi, je veux dire, impossible à faire seul.
Oui. Et pourquoi, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail, pourquoi c'est si difficile de faire ça tout seul?
Ben, parce qu'en fait, quand on est impliqué émotionnellement, c'est quasi impossible de voir les choses avec un œil neutre, avec du recul, avec une analyse objective. Certaines personnes y arrivent, hein, mais jusqu'à un certain niveau. C'est difficile d'aller jusqu'au bout, et c'est normal. Moi-même, j'ai effectué un gros travail sur moi pour devenir la personne, la praticienne que je suis. Et je me suis fait aider pour ça. D'abord lors des formations. Les formations en EFT sont d'abord un travail sur soi en profondeur qui m'ont fait économiser des années de thérapie. En tout cas, les formations que je
continue
et que je donne, c'est vraiment un travail sur soi. Et quand on travaille seul, on a tendance à être vite satisfait du résultat. Alors qu'avec un expert, il va aller plus loin et ne se contentera pas de ce qui est là. Il va aller gratter pour aller nettoyer le fond de la marmite.
Oui, tout à fait. Quand on travaille tout seul, on ne va pas forcément là où c'est inconfortable. Et puis ce sont nos croyances pour une bonne raison. Donc c'est difficile effectivement de s'en sortir tout seul.
Oui, tout à fait. Et au début de ma pratique, comme beaucoup, je devais être parfaite. Et donc, pour être parfaite, je devais être capable de tout faire moi-même. Et je ne consultais pas. Puis après avoir suivi mes formations, donc déjà travaillé sur moi, j'ai continué à travailler sur moi avec mes collègues de formation et avec des praticiens plus expérimentés que moi pour libérer bien sûr mes vieilles casseroles, mes traumas de l'enfance, etc. Et encore aujourd'hui, quand je vis des choses difficiles dans ma vie, parce que ça m'arrive encore aussi, ben je fais appel à quelqu'un pour m'aider. Ce qui est important, c'est que le travail sur soi, le chemin du développement personnel, ce n'est qu'un chemin. C'est pas une destination. On n'a jamais fini. Et l'être humain a 6 besoins fondamentaux. Et le besoin de grandir est un des besoins les plus importants. On n'a jamais fini de grandir, d'évoluer, de s'améliorer. C'est le principe même de la vie, la croissance. Quand il n'y a plus de croissance, ben, il n'y a plus de vie, tout simplement.
Oui, et tu parles de 6 besoins fondamentaux. Quels sont-ils ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, y a tout d'abord le besoin de sécurité. Besoin de sécurité, savoir qu'on a un toit au-dessus de notre tête, de quoi manger, savoir qu'on est aimé, qu'on a suffisamment d'argent pour finir le mois, que notre salaire tombe tous les mois sans se tracasser. Puis vient le besoin de variété, les défis, les surprises, les challenges, le changement. Le troisième besoin, c'est le besoin de reconnaissance, savoir qu'on est important, se sentir reconnu, se sentir aimé. Le quatrième, c'est le besoin d'amour et de connexion. Le cinquième, c'est le besoin de grandir, donc le besoin d'évoluer, d'avancer dans la vie. Et le sixième besoin, c'est le besoin de contribuer, besoin de donner aux autres, à sa famille, à sa communauté, non pas pour se sentir aimé et important, c'est pas la même chose. Donc le besoin de contribuer, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quand on accomplit quelque chose qui est plus grand que nous. Contribuer, ça ne veut pas dire faire un don à MSF tous les mois. Contribuer, c'est vraiment donner de soi pour les autres et pas pour soi. Il faut savoir que 80% des gens, pour 80% des gens, c'est le besoin de sécurité et de reconnaissance qui sont les plus importants. Et il est très intéressant de savoir quelle est la hiérarchie dans nos besoins fondamentaux et de savoir comment les combler. Car mon besoin de reconnaissance ne sera pas forcément comblé de la même manière que le tien, Maria. C'est différent pour chacun. Et pour être pleinement, vraiment pleinement heureux, tous nos besoins doivent être comblés. S'ils ne sont pas comblés, tous, bah, au mieux, on sera bien. Mais à un moment donné, on va essayer de les combler d'une manière qui sera peut-être pas bonne pour nous, par la nourriture, par l'alcool, le travail, ou une relation extra-conjugale où on va se créer des problèmes pour se sentir important, pour attirer de l'attention. Donc, connaître ses besoins et les combler soi-même, pas en attendant que ça vienne des autres, pour moi, c'est une des clés vraiment du bonheur.
Oui. Alors, tu parlais tout à l'heure de croyances et de peurs et de blessures que nous avons tous, on est d'accord. Et tu disais que la pensée positive et la loi d'attraction ne marchent pas si ces peurs et ces croyances sont trop présentes. Est-ce que tu peux développer ?
Oui, alors pour parler des peurs, nous avons tous des peurs. Les peurs les plus importantes et les plus paralysantes sont la peur de ne pas être aimé et la peur de ne pas être assez. Assez bien, assez gentil, assez aimable, de ne pas être à la hauteur. Ce qui revient à la peur de ne pas être aimé si on va gratter un peu plus loin derrière cette peur. Et ces peurs nous bloquent pour avancer et être heureux dans notre vie. Et la loi d'attraction dit « nos pensées créent notre réalité ». Donc, si nous sommes focalisés sur nos peurs, nous allons attirer encore plus de ce sur quoi nous nous focalisons. Par exemple, j'ai peur d'être en retard, qu'est-ce qui se passe ? Je vais me choper les feux rouges, les embouteillages, peut-être un pneu crevé ou peut-être pire encore en fonction de mon état émotionnel, de mon état vibratoire du moment. Et je dis état vibratoire parce que nos pensées sont des vibrations, des ondes vibratoires qui partent dans l'univers quand on les émet consciemment ou inconsciemment. Et une vibration va attirer une autre vibration qui vibre au même niveau que celle-ci. On dit qu'il y a la même fréquence. Donc, si je vibre la peur, l'angoisse, le ressentiment, la colère, la culpabilité, la tristesse, le désespoir ou l'épuisement, et ça la majorité du temps, dans ma journée et dans ma vie, eh bien, lorsque je serai dans ma voiture à avoir peur d'arriver en retard à ce rendez-vous, il peut m'arriver des bricoles et peut-être même une situation plus compliquée qui me fera sentir encore plus d'angoisse, de ressentiment, de colère, de culpabilité, de tristesse, de désespoir ou d'épuisement. Je vais te donner un exemple personnel. Oui. 2012 a été une année vraiment formidable, professionnellement parlant pour moi. Mon activité a fait un bond incroyable, les formations EFT, les séminaires, le programme FACE, enfin, tout ça, c'était un succès et évidemment, j'ai beaucoup travaillé, hein, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi. J'ai suivi des formations, des séminaires en Belgique, à l'étranger, qui m'ont amené fin de l'année à aller aux États-Unis, à l'université d'Anthony Robbins, qui est mon coach et mon mentor. Donc, inutile de te dire, Maria, qu'un séminaire d'une semaine avec lui, c'est comme courir le marathon de New York. Et tout ça après une année de progrès et d'évolution professionnelle incroyable. Et quand je suis revenue, j'étais vraiment épuisée, non seulement du voyage, du décalage horaire et du rythme soutenu sur place, mais surtout de l'accumulation de toute cette année. Et puis, on commence à parler de la grippe. Et mon fiston tombe malade. Et moi, je me dis, je ne veux pas être malade. La grippe ne passera pas par moi. Il ne faut pas que je sois malade. Et je précise quand même que depuis que je travaille avec l'EFT quotidiennement, je ne suis plus malade, hein, donc depuis des années. Mais bref, j'ai peur d'attraper la grippe. Et je vibre dans une énergie très basse, celle qui est de l'épuisement. Et je me souviens de m'être dit à un moment, oh, qu'est-ce que j'aimerais rester couché une semaine au bord de l'eau, ne rien faire au soleil.
Oups.
Et bien, devine ce que j'ai eu. Une semaine couché, ça c'est sûr, mais avec... Mm-hmm.
Et oui, chaud, il manquait la plage et les cocotiers.
Chaud j'ai eu, mais c'était de la température, en fait. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que lorsqu'on a peur de quelque chose et qu'on est dans un état d'esprit négatif, ce qui veut dire un état vibratoire bas, on attrape ce qu'on redoute ou on amplifie ce que nous vivons ou ce que nous vivons mal. Et donc, travailler sur nos peurs permet vraiment d'aller plus facilement vers le changement, vers les nouvelles rencontres, un nouveau job, la nouvelle maison, etc. Et lorsque nos peurs sont envolées, nous pouvons plus facilement mettre les choses en place pour atteindre nos objectifs. Et ça, je le vois dans les programmes de coaching, lorsque nous travaillons les peurs, les croyances et les blessures. Une fois que nous avons effectué ce gros travail de nettoyage, après en coaching individuel, lorsqu'on fixe les objectifs concrets à réaliser, les personnes y parviennent beaucoup plus facilement. C'est très stimulant pour eux et pour moi aussi d'ailleurs.
Oui, parce que quand tu dis, en plaisantant à moitié, que la loi d'attraction ne fonctionne pas, c'est la partie, il ne suffit pas de penser, surtout pas penser, il ne faut pas que je rattrape la grippe, parce que là on va la tirer. Mais même si on pense positivement, je suis en pleine santé, tout va bien, mon système immunitaire est en pleine forme, si les peurs sous-jacentes sont là, ça ne marchera pas parce que c'est les peurs qui vibrent plus fort.
Oui,
d'où l'intérêt de les traiter avec l'EFT et vraiment enlever à la racine cette vibration basse.
Exact. Oui, oui.
Et en ce qui concerne les croyances,
les croyances, qu'est-ce que c'est d'abord une croyance? Une croyance, en fait, c'est le fait de tenir quelque chose pour vrai, et ceci indépendamment des preuves éventuelles de son existence. Et donc, c'est par exemple quelque chose qu'on nous a répété quand on était petit, qu'on a fini par croire, même si on n'a pas de preuves de ça. Et souvent, pour nos croyances les plus limitantes, nous avons des exemples et des situations qui renforcent cette croyance. On peut faire l'analogie de la table. Si la croyance était une table, eh bien les expériences de vie qui vont démontrer et renforcer cette croyance, ce seraient les pieds de cette table. Et plus il y a de pieds, plus la table tient solidement. Mais si on commence à enlever les pieds un à un, à un moment donné, la table, elle tombe. Et nous pouvons alors les remplacer par d'autres pieds. Après avoir coupé, entre guillemets, les pieds de la table, donc ce qui veut dire libérer les événements et les expériences de vie qui renforcent cette croyance, avec le FT bien sûr, nous pouvons les remplacer par des nouvelles expériences qui vont renforcer l'antidote de cette croyance, le contraire. Et donc, la croyance limitante devient une croyance porteuse. C'est vraiment un processus extraordinaire.
Et concrètement, comment ça se passe pour transformer ces croyances?
Alors, il y a un processus très puissant que j'utilise dans les programmes de coaching, mais je veux bien vous le partager avec vous et en tout cas vous expliquer comment le faire. Après, je vous conseillerai de le faire peut-être avec un coach professionnel, mais je vais vous donner les grandes lignes. Et donc, pour chaque domaine de votre vie, j'espère que vous avez un papier et un bic, vous allez prendre le temps de réfléchir à vos limites, à vos croyances limitantes et les noter. Par exemple, je me suis toujours dit que, j'ai toujours entendu que, quand j'étais petite, on me répétait en permanence que, etc. Et je vais vous donner des exemples par catégorie. Donc, par exemple, dans la catégorie du couple, ça pourrait être « je tombe toujours sur des personnes qui ne me conviennent pas » ou « mes relations se terminent toujours par un échec » ou « la passion, ça ne dure pas ». En ce qui concerne les relations, ça pourrait être « mes amis passent avant tout, sans eux je ne suis rien ». Pour la famille, ça pourrait être « je dois respecter mes parents même s'ils me font du mal, je dois être là pour ma famille, ou ma famille passe avant moi, moi c'est pas important ». Ce sont toutes des choses que j'entends hein, en consultation et en coaching. En ce qui concerne les loisirs, ben ça pourrait être « faut d'abord faire notre devoir, après on pourra prendre du bon temps ». Ou les loisirs, c'est pour les fainéants. En ce qui concerne la mission, on peut croire que, c'est une croyance qui revient souvent aussi, on ne peut pas vivre de ce qu'on aime. La vie, c'est pas fait pour s'amuser. Dans le domaine des finances, qui est mon domaine préféré, les riches sont tous des escrocs ou des égoïstes. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ou l'argent ne tombe pas du ciel. Ou je peux pas mettre de l'argent de côté, c'est pas possible de m'offrir ce que je veux, je me sens coupable d'avoir plus d'argent que mes parents, etc., etc. Pour la santé, y a le travail, c'est la santé. Ou je ne serai jamais mince, ou je n'ai jamais eu une bonne santé, ou mes parents ont cette maladie, donc je vais l'avoir aussi. Il y a l'aspect spirituel aussi. On m'a toujours dit que je devais aller à l'église toutes les semaines. Je dois prier tous les jours. Ou, si je ne respecte pas ma religion, j'irai en enfer. Dans le quotidien, c'est, je suis nulle, je suis pas capable. Je dois agir comme ça pour qu'on m'aime. Je ne suis pas aimable. Ou je suis toujours en retard. Et puis, dans le domaine du bonheur, ça pourrait être le bonheur, ça ne dure pas. Le bonheur, c'est inaccessible. Je ne mérite pas le bonheur. Le bonheur, c'est pas pour moi. On peut pas tout avoir. Arrête de rêver, ma pauvre fille. Il faut choisir dans la vie et choisir, c'est renoncer. Tu vois, toutes ces belles croyances. Donc, notez celles qui sont les plus importantes pour vous et surtout celles qui vous bloquent le plus actuellement dans un domaine de votre vie. Bien souvent, c'est l'argent qui arrive en premier. Et j'adore ce sujet. C'est mon séminaire favori. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, une fois que vous avez identifié vos croyances les plus limitantes, vous avez certainement un tas d'événements, d'expériences de vie que vous avez vécues, vues ou entendues étant petit, qui prouvent que c'est vrai. En tout cas, qui vous donnent l'impression que c'est vrai. Eh bien, avec l'EFT, vous allez tapoter sur chacun de ces événements. Et quand vous aurez travaillé les différents pieds de la table, de cette croyance, vous allez prendre une feuille et écrire son antidote, son contraire. Par exemple, la croyance « je ne suis pas aimable » ou « on ne peut pas m'aimer » ou « je ne mérite pas l'amour ». Après avoir travaillé avec l'EFT tous les événements qui vous ont fait croire à ça, vous allez noter toutes les fois où vous vous êtes senti aimé, lorsque vous vous êtes senti aimable, quand vous avez pensé que vous méritiez l'amour, de l'attention. Prenez des petits événements. Et même si vous pensez qu'il n'y en a pas, que ça a toujours été comme ça dans votre vie, c'est faux. Il y a dans votre vie des moments où quelqu'un vous a montré de l'attention, que vous étiez important, aimable. Rien, je vais dire, que le fait de participer à ce congrès fait de vous une personne aimable. Une douzaine d'experts vous offrent du temps, de l'énergie et de l'amour gratuitement. Maria et son équipe ont eu l'idée géniale de créer cet événement, et ça depuis 3 ans, par amour de l'EFT et par amour des gens. Et rien que ça, ça doit vous faire sentir important. Bien sûr, ce sont des conseils, des outils, des informations importantes que les experts vous offrent, mais c'est surtout et avant tout de l'amour. En tout cas, je parle pour moi, mais je suis certaine que je peux parler au nom de tous les experts, ainsi qu'au nom de Maria et de sa super équipe, que je salue.
Oui, merci Caroline. Bien sûr, c'est tout à fait l'idée, c'est de rayonner et donner cet outil à un maximum de personnes pour plus de bonheur, on est d'accord?
Tout à fait, tout à fait.
Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a, quand tu parles de ces pieds, c'est vrai que souvent on voit des drôles de tables avec des dizaines de pieds. C'est pas notre table habituelle de salle de salle à manger. Mais rassurez-vous, si c'est votre cas, on n'est pas toujours obligé de traiter tous les pieds de cette table. Donc si votre croyance est soutenue par une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'événements, ce qui est très courant, sachez que le fait d'en traiter 4 ou 5, souvent, suffit. Si on prend les plus importants, je pense que tu es d'accord, Caroline, la table s'écroule toute seule.
Oui, tout à fait.
Et on peut commencer à reconstruire autre chose. Donc, on va transformer ces croyances limitantes grâce à l'EFT et des expériences positives, parce qu'effectivement, en cherchant, en prenant l'habitude de fouiller et chercher les expériences positives plutôt que les négatives, on trouve.
Tout à fait.
Et les blessures, quelles sont ces blessures dont tu parles?
Alors, en fait, je parle des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent Lise Bourbeau, et les 5 blessures, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille de lire. C'est les 5 blessures qui nous empêchent d'être heureux, en fait, qui nous empêchent d'être heureux à 100% dans tous les domaines de notre vie. Et donc, en lisant ce bouquin, vous allez découvrir des choses incroyables sur vous-même. Le hic, si je puis dire, c'est que je trouve que Lise Bourbeau, et j'adore cette femme, je la respecte infiniment, c'est une femme généreuse et qui rayonne vraiment l'amour de l'autre, mais je trouve qu'elle propose pas vraiment de moyens d'en guérir de ses blessures, si c'est une approche purement mentale qui, pour moi, ne suffit pas. Parler de ces mots ne suffit pas d'en guérir. C'est à un autre niveau que ça se passe, à un niveau énergétique, dans notre système énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai développé des protocoles du Back Energy Tapping spécifiques à chaque blessure. On en a parlé du Back Energy Tapping l'année dernière. Et il y a 5 blessures, en fait. Donc, il y a le rejet, pour commencer, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et je vous les ai donnés dans l'ordre chronologique dans lequel ces blessures apparaissent dans la vie dès la naissance, d'après Lise Bourbeau. Donc, Lise dit que nous avons une ou deux blessures dont nous souffrons et que nous venons sur Terre, nous nous incarnons pour vivre des expériences qui vont nous faire prendre conscience de ces blessures, dans le but, évidemment, d'en guérir. Et donc, nous allons choisir, notre âme va choisir, de naître dans telle ou telle famille avec tel ou tel parent qui va réveiller cette blessure. Donc, pour nous permettre, bien sûr, d'en guérir en entreprenant un travail personnel ou pas, j'ai envie de dire. Donc, je sais que c'est un concept parfois difficile à croire et même à entendre pour certains auditeurs. Hein, et malheureusement, on n'a pas le temps d'expliquer plus en détail ici dans le cadre. Et d'ailleurs, je vous demande pas de me croire, mais ça donne un formidable pouvoir sur notre vie. Et ça nous renvoie à notre responsabilité d'avoir choisi cette vie et choisi les expériences de vie. Si je subis tout dans ma vie, cela ne me laisse aucune marge de manœuvre. Je donne tout le pouvoir à l'autre, aux autres, aux circonstances. Je peux rien faire. Et souvent, ça m'arrange, inconsciemment, évidemment. Donc, Lise dit que nous souffrons d'une ou deux blessures. Ben, là, je suis pas à 100% d'accord avec elle. Je pense que nous souffrons tous des 5 blessures, mais qu'elles se manifestent plus à tel ou tel moment de notre vie. Et qu'en effet, si nous entreprenons pas un travail personnel pour en guérir, ben, non seulement notre âme en souffrira encore dans la prochaine vie, mais en plus, nous la transmettons aux générations futures, nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça, pour beaucoup, c'est une motivation pour en guérir. Bien que je pense que la meilleure motivation, c'est d'abord de vous-même, de travailler sur vous-même. Donc c'est en guérissant vous-même de ces blessures que vous serez plus heureux et que vous montrerez l'exemple autour de vous. Et pour moi, être une source d'inspiration pour mes proches et rayonner, c'est vraiment quelque chose d'important. Elle dit également que les blessures apparaissent à un certain âge après la naissance. Moi, je pense, et Maria, tu vas probablement être d'accord avec moi, que ça peut même se passer déjà avant, dans le ventre de la maman, dès la conception. Par exemple, papa et maman veulent un garçon et je suis une fille. Ou j'étais pas toute seule dans le ventre de maman, il y avait un autre bébé, un jumeau, et maman l'a perdu. Il faut savoir que les grossesses gémellaires sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes qu'on ne pense.
Oui.
Et la maman ne le sait pas, hein, mais tout en début de grossesse, il arrive qu'elle perde un bébé. Ça arrive dans les toutes premières semaines de la grossesse. Et donc, en général, elle sait même pas qu'elle est enceinte. Elle pense, ben voilà, qu'elle est réglée, mais en fait, elle est déjà enceinte. Et ça peut créer un gros trauma chez le bébé qui reste. Ça donne des personnes qui manquent de confiance, qui peuvent culpabiliser pour tout, ou peut-être qui savent pas faire les choses tout seuls, ou qui ne savent pas choisir entre deux choses et qui achètent tout en double, par exemple. Hein. Bon, c'est pas parce que vous achetez tout en double que vous avez un jumeau perdu, mais ce sont des pistes. Hein. Et donc, il y a un trauma intra-utérin qui peut se travailler facilement avec l'EFT. Et ce sont toujours des séances extraordinaires et libératrice pour la personne. C'est vraiment fabuleux.
Oui, et ça peut faire peur quand on n'a pas eu l'occasion de tester ça, mais j'ai envie d'ajouter qu'avec l'EFT, on peut faire ça vraiment en toute légèreté.
En douceur, oui,
en douceur. On y va tranquillement, on peut traiter ça avec une certaine distance de sécurité, donc ça n'a pas besoin d'être traumatisant.
Non, il n'y a pas besoin de souffrir pour guérir.
Non. Non, voilà, cette croyance-là, on peut lui couper les pieds tout de suite avec l'EFT.
Oui, tout à fait, oui, oui.
Alors, par rapport à ces blessures, est-ce que tu peux nous donner quelques indices, rapidement, justement, pour savoir de quelles blessures on souffre le plus?
Oui, mais en fait, quand on souffre d'une blessure, pour éviter de souffrir plus, on va adopter ce qu'on appelle un masque, une personnalité, un mode de fonctionnement pour nous protéger. Donc, pour la blessure de rejet, par exemple, c'est le masque du fuyant. Pour la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. La blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. La blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Et la blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Donc, je vais vous citer juste quelques petits exemples par blessure. Comme ça, vous allez peut-être identifier certaines blessures. Par exemple, pour la blessure de rejet, un bébé non désiré, celui qui arrive par accident. Ou le cas du bébé qui n'a pas le sexe souhaité. Donc, le bébé pourra vivre cette blessure de rejet. La personne qui se sent rejetée n'est pas objective. Elle interprète les incidents de la vie à travers des filtres de sa blessure et se sent rejetée même quand c'est pas le cas. Donc le bébé qui se sent rejeté adoptera le masque de fuyant, qui sera sa nouvelle personnalité. C'est le caractère qu'il va développer pour éviter de souffrir de ce rejet. C'est en général un masque qui se reconnaît aussi physiquement par un corps qui ne prend pas beaucoup de place, qui essaye de ne pas occuper trop d'espace. C'est une personne qui pense qu'elle n'a pas de valeur et quand elle a trop d'attention, elle peut perdre ses moyens. S'il prend trop de place, il a peur de déranger. Être dérangeant signifie être rejeté pour cette personne. Et le fuyant cherche aussi la perfection parce que s'il fait une erreur, il pense qu'il va être jugé et être jugé, c'est être rejeté. La blessure d'abandon, par exemple, c'est un enfant qui peut se sentir abandonné si... sa maman se trouve tout à coup très occupée par un nouveau bébé, surtout si ce bébé demande beaucoup de soins, s'il est malade ou handicapé. L'enfant aura l'impression que sa mère le quitte continuellement. Ou si les parents partent travailler tous les jours et qui ont très peu de temps pour s'occuper de leur enfant. Ou par exemple un enfant qui est amené à l'hôpital et on doit le laisser, même si les parents viennent tous les jours. Peut-être que s'il n'a pas été sage les semaines précédentes, il va en déduire que ses parents en avaient assez de lui. Ou des parents qui emmènent l'enfant chez une gardienne pendant leurs vacances, même si c'est la grand-mère. ou une maman qui est toujours malade et le papa est trop occupé ou absent pour s'occuper de l'enfant et est obligé de se débrouiller tout seul. Donc tout ça peut réveiller cette blessure d'abandon. C'est des personnes qui ne se sentent pas assez nourries affectivement. Le dépendant, donc celui qui souffre de la blessure d'abandon, est celui qui va plus facilement devenir victime dans sa vie. Et une victime, c'est une personne qui va créer dans sa vie des difficultés de toutes sortes, surtout des problèmes de santé, pour attirer l'attention, ce qui lui évite de sentir abandonné, qui est la pire chose pour cette personne. C'est une personne qui dramatise beaucoup, le moindre petit incident peut prendre des proportions gigantesques, et la solitude est la plus grande peur du dépendant. Et c'est pour ça qu'il s'accroche souvent aux autres pour attirer de l'attention. Il est prêt à je dis presque à n'importe quoi pour être aimé. C'est aussi lui qui a peur le plus peur de l'autorité. Il s'imagine que si quelqu'un a autorité, cette personne va être froide. Et c'est pour cette raison que souvent il est chaleureux avec les autres, même au point parfois de se forcer. Pour la blessure d'humiliation, l'éveil de cette blessure se fait quand l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui ou qu'il a peur d'avoir honte lorsqu'il est sale, lorsqu'il fait un dégât, surtout en famille ou en public, quand il est mal habillé, par exemple. Un exemple comme ça, c'est une petite fille dans un internat de sœurs, peut-être que ça se passe moins aujourd'hui, mais avant ça arrivait souvent, qui mouille son lit et qui doit se promener avec les draps sales sur son dos toute la journée. Ben évidemment, ça ne fait qu'empirer le problème. La sexualité apporte aussi son lot d'humiliation. Par exemple, quand la maman surprend son petit garçon en train de se masturber et qui crie « espèce de petit cochon, t'as pas honte, on ne fait pas ça, c'est sale », l'enfant peut vraiment se sentir honteux et il pourra connaître par la suite des difficultés dans sa sexualité. Ou si les parents, si l'enfant surprend ses parents tout nus et qui sent que ses parents sont mal à l'aise. Ils veulent se cacher, il va apprendre qu'il doit avoir honte de son corps. Le masque, ici, c'est le masque du masochiste. Et c'est le comportement d'une personne qui va trouver de la satisfaction et même du plaisir, inconsciemment souvent, à souffrir, qui va rechercher la douleur et l'humiliation la plupart du temps, qui va s'organiser pour se faire mal ou se punir. C'est souvent quelqu'un qui va avoir un corps gros, qui lui fait honte. Et le masochiste a souvent le don de se placer dans des situations où il doit prendre soin de quelqu'un. Il s'oublie de plus en plus, il en prend beaucoup sur son dos, comme on dit. Et donc, plus il en prend sur son dos, plus il prend du poids. Voilà, et donc, chaque fois que le masochiste semble vouloir faire quelque chose pour les autres, en fait, ce qu'il désire inconsciemment, c'est se créer des contraintes et des obligations. Voilà, c'est des exemples pour la blessure d'humiliation. Alors pour la blessure de trahison, quand l'enfant vit la blessure de trahison, il met le masque du contrôlant. Et donc le contrôlant, c'est quelqu'un qui a un corps qui exhibe la force, le pouvoir et qui semble dire « je suis responsable, vous pouvez me faire confiance ». Un homme contrôlant, il a les épaules bien larges, plus larges que les hanches. Parfois il arrive qu'il n'y ait pas de grosse différence entre les épaules et les hanches. Et chez la femme contrôlante, c'est plutôt une force qui va se concentrer dans les hanches, les fesses, le ventre, les cuisses. La culotte de cheval fait partie de cette blessure, par exemple. L'enfant qui se sent trahi par son parent, chaque fois que ce parent ne tient pas une promesse ou qu'il trahit sa confiance, il vit cette trahison surtout dans sa connexion amoureuse ou sa connexion sexuelle. Par exemple, une expérience incestueuse est vécue comme une trahison dans presque tous les cas. Donc le contrôlant, c'est quelqu'un en général de très physique. Regardez-moi, c'est ça qui va émaner de cette personne. C'est quelqu'un qui est séducteur aussi, le contrôlant, qui a beaucoup de talent, qui s'exécute rapidement, n'a pas beaucoup de patience avec les gens lents. C'est quelqu'un qui doit faire beaucoup d'efforts pour lâcher prise avec les personnes plus lentes. Un parent contrôlant va exiger de ses enfants d'aller vite. Il vit aussi la colère quand les choses ne vont pas assez vite. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir vraiment très 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 important. Son mental est en activité tout le temps, quoi. Il pense tout le temps. C'est quelqu'un pour qui la réputation est très importante. C'est vraiment sa réputation. Il doit avoir la réputation d'être fiable, responsable et qu'il est fort, en fait. Et puis la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. L'enfant trouve injuste de ne pas pouvoir s'exprimer et être lui-même. Et il va souvent souffrir de la froideur d'un parent, donc de son incapacité de sentir et de s'exprimer. Il va souffrir de son autoritarisme, de ses critiques, de sa sévérité, de son intolérance ou de son conformisme. Et face à la réaction d'injustice, qui consiste à se couper de ce qui est ressenti, il va mettre le masque de la rigidité. Donc c'est une personne qui se coupe de ce qu'elle ressent, qui va dire qu'elle ne peut rien sentir, qu'elle ne ressent rien. Mais ce sont des personnes très sensibles, hein, qui vont développer cette capacité de ne pas sentir et de ne pas montrer aux autres. Elles peuvent sembler froides, hein, et insensibles. Ils cherchent tout le temps la justice. Faut qu'ils s'assurent qu'ils méritent ce qu'ils reçoivent. Le mérite est quelque chose de très important. Et mériter, ça signifie obtenir une récompense suite à une bonne performance. S'il reçoit quelque chose sans avoir travaillé, il croit qu'il ne le mérite pas et il va s'arranger pour le perdre. Donc voilà, ça, ce sont des comportements que le rigide peut aussi avoir. Il a du mal à connaître ses limites aussi. Il va pas prendre du temps pour répondre à ses besoins et il préfère faire tout seul pour que tout soit parfait. Et c'est souvent ces personnes-là qui sont le plus enclins à souffrir de burn-out. Ils ont de la difficulté à recevoir des cadeaux, ils se sentent redevables, ils préfèrent refuser un repas, par exemple, qu'on voudrait lui offrir parce que il faudra vraiment qu'elle rende l'appareil à un moment donné. Le rigide vit beaucoup de stress car il s'impose la perfection dans tout. Et l'émotion la plus courante chez le rigide, c'est la colère. Et surtout la colère contre lui-même. Donc voilà, le genre de symptomatique, je vais dire. Mais lisez ce bouquin et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'une ou l'autre de ces blessures.
Oui, et si par hasard il y a des personnes qui se disent « Oh là là, mais je cumule tout !» Sachez qu'avec le EFT, c'est relativement facile de libérer ses émotions, n'est-ce pas Caroline?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que souvent on se reconnaît un petit peu dans toutes les blessures, mais il y en a quand même une ou deux qui sont plus marquées. Donc oui. Commencez par travailler celle-là.
Oui, et tant mieux, ça veut dire que vous avez le cadeau d'avoir un grand nombre de pistes à travailler avec l'EFT, justement.
Oui, tout à fait. Oui, c'est... Moi, ce bouquin, la première fois que je l'ai lu, Maria, je me suis dit, mais c'est moi, ça! Oh, c'était impressionnant, quoi. Je me suis dit, mais enfin, mais c'est ma vie qu'elle est en train de raconter, quoi.
Oui.
Mais ça a été un cadeau extraordinaire d'en prendre conscience et puis grâce à l'EFT m'en libérer. Alors on s'en libère pas à 100% je pense, mais voilà, on se sent des gens vachement mieux.
Oui, et puis comme tu disais, c'est un trajet, c'est pas une destination, donc c'est un travail continu. Il y a des nouvelles couches qui se présentent régulièrement. Donc voilà, on ressort ses petits doigts et on recommence et on tapote. Et on continue.
Oui, avec l'EFT, c'est vraiment très 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 facile. Je travaille aussi avec le Back Energy Tapping pour les blessures, le DP4 qui est très chouette aussi, une autre technique énergétique pour en tout cas pour le travail sur les blessures. Oui.
Oui, et justement, à l'occasion du congrès, tu proposes des protocoles de Back Energy Tapping spécialement pour les blessures.
Oui. Donc, j'ai créé donc un protocole du Back Energy Tapping par blessure. Donc, si vous êtes un petit peu reconnu dans les exemples que j'ai donnés, eh bien, vous pouvez pratiquer ces protocoles autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez aussi... puisque c'est le Back Energy Tapping, donc avec les fleurs de Back, vous pouvez aussi combiner avec la prise des fleurs de Back. qui sont proposées pour chacun des protocoles. Donc, pour chaque protocole, il y a 3 fleurs qui sont proposées. Alors, soit vous pouvez prendre les 3 fleurs en fonction de la blessure qui vous parle le plus. Si vous dites, voilà, moi, c'est la blessure d'injustice, je m'y reconnais à 200%, mais vous pouvez prendre les fleurs qui sont proposées avec cette blessure-là, ou vous pouvez aussi faire une synergie avec toutes les fleurs qui sont reprises dans les 5 protocoles. Et donc, c'est très simple, vous allez dans une pharmacie ou un magasin, vous ne devez pas acheter toutes les fleurs de Bac pour ça, vous allez dans une pharmacie, un magasin bio, et vous demandez de faire une préparation, une synergie de fleurs de Bac avec les fleurs en question. Et vous allez prendre cette synergie pendant 3 semaines en plus du tapping. Vous prenez 4 gouttes, 4 fois par jour minimum, et vous faites le tapping. En plus, vous verrez, c'est extrêmement puissant.
D'accord. Alors, tu nous as déjà parlé de ces peurs, ces croyances, ces blessures que tu rencontres à longueur de journée dans les accompagnements que tu proposes. Et concrètement, comment est-ce que tu travailles ?
Mais les peurs les plus fréquentes, c'est la peur de ne pas être aimée et la peur de ne pas être assez, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les blessures, c'est souvent le rejet et l'abandon qui viennent le plus souvent. Les croyances, c'est « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas la richesse, je ne mérite pas d'être heureuse. Alors, comment on les travaille concrètement ? Bien sûr, on peut tapoter sur la croyance en disant, par exemple, « même si je ne mérite pas l'amour, je m'accepte totalement et profondément ». On va le dire 3 fois, puis on va tapoter sur tous les points en répétant la phrase « je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas l'amour ». Mais ça sera beaucoup plus efficace en trouvant les événements qui ont fait qu'un jour, la personne y a cru. Et donc, par les questions que je vais poser, et ça commence avec l'anamnèse que je fais à l'aide du Back Energy Tapping, et là, je découvre beaucoup d'informations que la personne ne me donnerait pas spécialement comme ça, et qui me serviront à trouver le ou les événements qui ont fait qu'elle a cru à un moment donné qu'elle ne méritait pas l'amour ou méritait pas d'être heureuse ou qu'elle ne méritait pas le bonheur. Donc voilà, voilà comment je pratique.
D'accord. Et justement, je crois que tu as prévu qu'on le fasse un petit peu ensemble.
Oui. Donc ici, j'ai fait un protocole sur le droit au bonheur. Donc, oui. C'est un protocole que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et qui fait beaucoup de bien.
Alors, nous allons faire ce protocole tous ensemble. Donc, nous invitons tous nos auditeurs à tapoter en même temps. Et même si vous êtes déjà convaincus d'avoir droit au bonheur, bravo, félicitations, mais on peut toujours en demander un peu plus, n'est-ce pas, Caroline?
Toujours plus, Maria.
Voilà, donc où que vous en soyez avec votre droit au bonheur, tapotez pour recevoir encore plus.
Ce que j'ai envie de préciser, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je rencontre beaucoup de gens dans les séminaires, etc. Et là, ils me disent tous, la plupart en tout cas, si, j'ai droit au bonheur, j'ai droit à la richesse, j'ai droit à l'abondance. Je dis oui, et pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne vivez pas alors?
Ouais.
Si à un moment, en effet, tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent « si, je pense que je mérite de gagner au loto ». Si tu le pensais vraiment, dans toutes les parties de toi, tu aurais déjà gagné. Donc, c'est que quelque part, enfoui en nous, il y a une petite croyance, un petit conflit qui fait que ça n'arrive.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement, il ne suffit pas d'y penser à longueur de journée avec notre tête.
Exact.
Il y a des choses dans nos tripes, j'ai l'habitude de dire, qui pensent autrement.
Oui.
Le signal ne sera pas clair et ça passera pas aussi facilement qu'on le souhaite.
Exactement.
Donc, alors, allons-y.
Tapotons. Donc, sur le point karaté, donc le tranchant de la main, même si je n'ai pas droit au bonheur, je m'accepte totalement et profondément.
Même si je n'ai pas droit au bonheur, je m'accepte totalement et profondément.
Même si le bonheur et l'abondance, ce n'est pas pour moi.
Même si le bonheur et l'abondance, ce n'est pas pour moi.
tout n'arrive pas sur un plateau, il faut travailler dur.
Tout n'arrive pas sur un plateau, il faut travailler dur.
C'est une course d'obstacles.
C'est une course d'obstacles interminable.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Même si je n'ai pas réussi dans ma vie et ça me donne envie de pleurer.
Même si je n'ai pas réussi dans ma vie et ça me donne envie de pleurer.
C'est une bataille et c'est lourd à porter.
C'est une bataille et c'est lourd à porter.
Je m'accepte totalement et profondément.
Je m'accepte totalement et profondément.
Ok, sur le dessus de la tête, je n'ai pas droit au bonheur.
Je n'ai pas droit au bonheur.
Début des sourcils, je n'ai pas droit au bonheur.
Je n'ai pas droit au bonheur.
Coin des yeux, je n'ai pas droit au bonheur.
Je n'ai pas droit au bonheur.
En dessous des yeux. Le bonheur et l'abondance, ce n'est pas pour moi.
Le bonheur et l'abondance, ce n'est pas pour moi.
En dessous du nez. Tout n'arrive pas sur un plateau.
Tout n'arrive pas sur un plateau.
En dessous de la bouche. Il faut ramer et travailler dur.
Il faut ramer, il faut travailler dur.
Clavicule. Ma vie, c'est une course d'obstacles.
Ma vie, c'est une course d'obstacles.
En dessous des bras. Je n'ai pas réussi dans ma vie, ça me donne envie de pleurer.
Je n'ai pas réussi dans ma vie, ça me donne envie de pleurer.
En dessous des seins. C'est une bataille et c'est lourd à porter.
C'est une bataille et c'est lourd à porter.
Dessus de la tête. Et si j'avais droit au bonheur?
Et si j'avais droit au bonheur?
Début des sourcils. Et si le bonheur et l'abondance, c'était pour moi aussi?
Et si le bonheur et l'abondance, c'était pour moi aussi?
Coin des yeux. Et s'il ne fallait pas plus ramer pour avoir quelque chose?
Et s'il ne fallait pas ramer pour avoir quelque chose?
En dessous des yeux. Et si le bonheur venait à moi facilement?
Et si le bonheur venait à moi facilement?
En dessous du nez. Et si j'y avais droit?
Et si j'y avais droit?
En dessous de la bouche. Et si je me donnais le droit de réussir dans la vie?
Et si je me donnais le droit de réussir dans la vie?
Clavicule. Et si je me donnais le droit de réussir ma vie?
Et si je me donnais le droit de réussir ma vie?
En dessous des bras. Il n'y a que moi qui puisse me donner ce droit.
Il n'y a que moi qui puisse me donner ce droit.
En dessous des seins, le bonheur est un droit universel.
Le bonheur est un droit universel.
Dessus de la tête, je choisis de me donner ce droit.
Je choisis de me donner ce droit.
Début des sourcils, je choisis d'avoir droit au bonheur.
Je choisis d'avoir droit au bonheur.
Coin des yeux, je choisis d'avoir droit à l'abondance dans tous les domaines de ma vie.
Je choisis d'avoir droit à l'abondance dans tous les domaines de ma vie.
En dessous des yeux, je choisis que tout soit facile pour moi à partir d'aujourd'hui.
Je choisis que tout soit facile pour moi à partir d'aujourd'hui.
En dessous du nez, je choisis de mériter ce qu'il y a de mieux.
Je choisis de mériter ce qu'il y a de mieux.
En dessous de la bouche, je choisis de mériter ce qu'il y a de mieux.
Je choisis de mériter ce qu'il y a de mieux.
Clavicule, je choisis que tout vienne à moi facilement, simplement et rapidement.
Je choisis que tout vienne à moi facilement, simplement et rapidement.
En dessous des bras, je choisis de vivre la vie dont je rêve.
Je choisis de vivre la vie dont je rêve.
En dessous des seins, je choisis de définir exactement ce dont je rêve.
Je choisis de définir exactement ce dont je rêve.
Dessus de la tête. Mais je ne sais pas ce dont je rêve.
Mais je ne sais pas ce dont je rêve.
Début des sourcils. Et si une partie de moi savait?
Et si une partie de moi savait déjà?
Coin des yeux. Et si tout devenait clair pour moi maintenant?
Et si tout devenait clair pour moi maintenant?
En dessous des yeux. Je choisis de définir clairement la vie de mes rêves.
Je choisis de définir clairement la vie de mes rêves.
En dessous du nez, la vie que je mérite.
La vie que je mérite.
En dessous de la bouche, pourquoi je mérite tant de bonheur?
Pourquoi je mérite tant de bonheur?
Clavicule, Pourquoi je me donne tant d'amour?
Pourquoi je me donne tant d'amour?
En dessous des bras. Pourquoi je suis tellement abondante dans tous les domaines de ma vie?
Pourquoi suis-je tellement abondante dans tous les domaines de ma vie?
En dessous des seins. Pourquoi je mérite d'être heureuse?
Pourquoi je mérite d'être heureuse?
Et vous prenez une profonde inspiration. Enfin,
voilà, voilà, et vous faites ce que vous pouvez pour redescendre sur terre. Voilà, on aurait dû prévenir qu'il fallait mettre les chaussures de plomb pour ne pas s'envoler.
Tout à fait.
Ah, c'est super, merci.
Merci aussi.
Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent en matière de bonheur?
Alors, je ne sais pas si ce sont des conseils, mais en tout cas, moi, ce sont mes secrets du bonheur et d'abondance. Et mon premier secret, c'est la gratitude. On en parle beaucoup aussi, mais pratiquer la gratitude au quotidien a littéralement changé ma vie. Depuis que je pratique la gratitude, je suis plus heureuse, je suis plus riche financièrement, en meilleure santé, je réussis tout ce que j'entreprends et ma vie amoureuse est transformée. Et quand j'ai commencé mon chemin de développement personnel, qui correspond au moment où j'ai quitté ma place de directrice de banque pour devenir sophrologue, je ramais pour trouver des clients. C'était vraiment galère. Et puis, j'ai été invitée à une journée de développement personnel sur la confiance en soi. Et l'orateur proposait un programme de coaching et de développement personnel d'un an axé sur le développement de l'activité. Eh bien, tu me croiras ou pas, mais à partir du moment où je me suis inscrite, où j'ai signé mon engagement, et déjà, entre ce moment-là et le moment où la formation commençait, il y avait plus d'un mois de délai. Eh bien, rien qu'en m'engageant, je suis passée de 3 clients par semaine à 12 clients sans rien faire. Et puis, ça n'a pas arrêté. Et depuis que je pratique l'EFT, dès que j'organise un séminaire, une formation, que sais-je, et que je ne suis pas satisfaite du nombre de participants, eh bien, je fais une petite séance d'EFT, je tapote là-dessus sur mon ressenti et je demande à mon ami l'univers, comme je dis souvent, un petit coup de pouce. Et j'ai plusieurs inscriptions qui arrivent, c'est vraiment super. Et donc, à ce moment-là, je suis très, très reconnaissante pour ça et je ressens énormément de gratitude. La gratitude, ça n'est pas simplement dire merci. La gratitude, c'est vraiment un sentiment, ça se ressent, ça me donne chaud au cœur, quoi. L'autre jour, j'ai quelques exemples, c'est assez incroyable pour vous montrer à quel point ça change la vie. L'autre jour, je paye une facture pour mon loyer à Bruxelles, je reçois à Bruxelles un jour par semaine, donc je loue un bureau pour ça. Et bon, ça, c'est un budget assez important dans mes frais, mais je paye toujours cette facture avec énormément de gratitude parce que ça me permet de recevoir des personnes qui ne viendraient peut-être pas chez moi dans ma vaste campagne. Eh bien, 2 heures après, le facteur m'apporte une super nouvelle. Je recevais un montant 10 fois supérieur à ce que j'avais payé et c'était quelque chose que je n'attendais absolument pas. Un autre exemple extra lorsqu'on ressent de la gratitude, la vie vraiment vous le rend au centuple. L'année passée, les gens qui me suivent sur Facebook ont partagé ça avec moi. J'ai refait le toit de ma maison l'année passée, hein. Et donc cet hiver, pour la première fois dans mon beau moulin, je n'ai pas eu froid. Et un jour où voilà, il faisait chaud, je ressentais énormément de gratitude pour le toiturier qui a fait mon toit qui avec une super isolation. Vraiment, j'étais là, je le remerciais du fond du cœur. Eh bien, 2 heures plus tard, je reçois une lettre de mon comptable qui m'annonce que finalement, je ne paierai que la moitié d'impôts qu'il avait estimé. C'est vraiment incroyable. Et puis, un petit dernier pour la gratitude, petit dernier pour la route. Je paye toujours, toujours, toujours mes factures avec beaucoup de gratitude. C'est vraiment un principe, j'ai envie de dire, chez moi. Et donc, je paye ma facture de TVA ce trimestre-ci qui était très importante, et c'est tant mieux, eh bien, je te jure, Maria, instantanément, au moment où je l'ai payé, je reçois un mail avec une inscription supplémentaire au programme FACE. C'est quand même incroyable. Et donc, soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez. Et si vraiment vous pensez que vous n'avez pas beaucoup, pensez à votre habitation, même si elle ne vous appartient pas. Vous avez un toit sur votre tête. Soyez reconnaissant pour ça. Soyez reconnaissant pour les vêtements que vous portez. Ils vous tiennent chaud. Soyez reconnaissant pour l'ordinateur qui vous permet d'écouter ce congrès. La connexion Internet. Vos oreilles qui vous permettent d'écouter cette conférence. Tous vos sens, tout votre corps qui fonctionne bien sans devoir y penser. Même si vous êtes malade en ce moment, vous respirez sans devoir y penser. Vous digérez sans devoir y penser. Soyez reconnaissant pour le soleil, soyez reconnaissant pour votre emploi. Il y a des millions de gens sur la planète qui n'en ont pas. Soyez reconnaissant pour votre voiture, votre lave-vaisselle, votre télévision. Soyez reconnaissant pour vos proches, votre amoureux, vos enfants si vous en avez, le sourire de la caissière au magasin. Et n'attendez pas que ça soit elle qui vous sourie, hein, pour lui rendre. Souriez en premier et vous verrez, c'est très contagieux. Et mon second secret pour être plus heureux, c'est de se faire aider, de se faire accompagner et de trouver la bonne personne qui vit ce qu'elle dit et qui va vous permettre de travailler en profondeur sur vos peurs, vos blocages, vos croyances, vos blessures, tout ce qui vous limite en fait dans votre vie. Ça peut être un thérapeute, un coach, ça peut être un prêtre ou une amie, bien que je pense que ces derniers, ce ne sont pas des professionnels évidemment qui pourront vous aider à aller jusqu'au bout. Mais trouvez voilà quelqu'un qui va vous accompagner et qui va vous aider vers ce niveau de bonheur supérieur. Évidemment, moi je vais vous dire travaillez tout ça avec l'EFT, hein, parce que pour moi c'est la meilleure technique. Mais trouvez peut-être votre technique, ce sera peut-être en pratiquant du yoga ou de la méditation, que sais-je, et engagez-vous. Ça c'est très important. L'engagement c'est ce qui change tout. Engagez-vous. Votre bonheur est au bout de vos doigts grâce à l'EFT. Formez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pourrez l'utiliser plus facilement pour vous et pour vos proches. L'EFT permet vraiment d'élever votre niveau énergétique. Vous l'avez senti tout à l'heure avec la séance. Et chaque fois que vous tapotez, vous élevez votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire. Et vous allez attirer des nouvelles choses avec un niveau vibratoire plus élevé. Et donc, vous élèverez votre niveau de bonheur. Voilà, ça ce sont mes deux secrets, la gratitude et se faire accompagner.
Oui, merci. Merci Caroline pour toutes ces pistes que tu as partagées. Choisissez d'être heureux, choisissez de mettre en place plus de bonheur. Vous l'avez au bout des doigts, il y a qu'à se servir, j'ai envie de dire.
Exactement. Merci en tout cas à toi. Moi, Maria, je suis pleine de gratitude pour toi, pour ce congrès et de m'avoir encore permis de partager tout ça avec plein de monde. Merci.
Merci à toi, Caroline, d'être là, si fidèle à ce congrès virtuel francophone de l'EFT. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toutes tes activités et se frotter à ta belle énergie, je rappelle le nom du site principal de Caroline, carolinebachot.com. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. On va ouvrir le chat et elle y répondra dans quelques instants. Merci.
Merci, Maria.